Alors pour l'instant, j'en suis à 2 visionnages au cinéma. Est-ce que je vais atteindre le même nombre que le premier que j'avais vu 4 fois en tout ?
4 fois ? Ah, j'avais zappé ça.
En fait, je suis même plus sûre de combien de fois je l'avais vu, parce que je sais que je l'avais vu au moins 3 fois au moment où il est sorti, mais peut-être 4, je ne me souviens plus. Et je l'ai vu en tout cas une autre fois, une semaine là, avant de la sortie du 2, ou 2 semaines avant la sortie du 2.
Et alors,
au moins 4.
Tu penses que tu vas y retourner une troisième ?
Je sais pas, parce que c'est moins facile que quand qu'en 2001 où j'avais un cinéma
2021.
À porte-pied 2021. J'ai dit 2001.
Ouais. Bref. On aurait attendu longtemps pour le film. Hein.
Qu'est-ce que le temps, hein, tout est noyé dans un brouillard d'épices.
Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou encore un chai latte et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité.
Et bienvenue dans notre deuxième épisode sous le label Et la Bête, avec pour l'occasion un tout nouvel hébergeur. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous ? Normalement rien.
On espère.
Et justement, voilà, on espère qu'il n'y aura pas de soucis de diffusion, que vous le retrouvez sur toutes les plateformes. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire à @poptepodcast sur Insta et Twitter si jamais il y a un petit souci. Mais bon, je pense que cet épisode va être assez long, alors on va peut-être commencer rapidement.
Ouais, on a beaucoup de choses à dire, puisque comme on l'a annoncé, parce que cette fois-ci, on avait anticipé, on continue à tenir un peu notre planning, ce mois-ci, on ne pouvait pas passer à côté du film qu'on attend depuis longtemps, pas depuis 2001.
C'est ce que j'allais dire.
C'était effectivement la sortie, il y a quelques semaines, de Dune partie 2. De Denis Villeneuve, évidemment. Enfin, on retourne sur Arrakis. Et après tant d'anticipations, de reports, d'avancées, la date du film a bougé quand même pas mal de fois, notamment avec la grève des acteurs. C'est pas la grève des scénaristes, mais pour le coup, la grève des acteurs qui avait impacté la date de sortie. Enfin, on l'a et ça nous a laissé le temps de faire monter l'anticipation et donc de passer par toutes les émotions. Et puisqu'on parle d'émotions, ça va être le thème de cet épisode. On revient à l'aspect thérapie de Popcorn Therapy, puisqu'on a décidé de ne pas suivre les préceptes des Bene Gesserit et de laisser nos émotions s'exprimer haut et fort. Et donc, c'est toutes les émotions qu'on a éprouvées devant ce film et en repensant à ce film qui vont guider notre analyse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet full spoiler, on va quand même donner notre avis rapidement sans spoiler et surtout par rapport à l'énorme hype que j'ai l'impression qu'il y a autour de ce film. Même si j'ai eu quelques retours plus négatifs par différentes personnes, notamment une collègue avec qui j'ai discuté hier. C'est quand même un retour quand même assez plutôt positif de pas mal de critiques. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Est-ce qu'il nous a plus ou moins plu que le premier ? Est-ce qu'il faut avoir consommé de l'épice pour voir ce film ? C'est la vraie question que je te pose, Charline.
Bon, je pense que déjà, si t'as été le voir 2 fois, il n'y a pas trop de suspense de ton côté. Mais, alors moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai passé un très bon moment devant. J'en suis sortie enchantée, très contente. Pour ça, aucun problème. Esthétiquement, il est hyper bien réussi. Les plans sont sublimes. La photographie est magnifique. Je pense qu'il va être sûrement nommé aux Oscars à ce niveau-là. C'est un film qui est très artistique, voilà. Encore plus que le premier, j'ai trouvé. Ou alors, il m'a plus plu et du coup, j'ai eu plus cette impression-là. Au niveau du rythme, pareil, j'ai trouvé un peu plus abouti que le premier pour lequel j'avais ressenti des longueurs. Là, c'était pas le cas. Puisque l'histoire, elle m'a complètement happée. Il y avait un peu de contemplatif, un petit peu d'histoire, un petit peu de guerre, d'action. Et c'était très bien mélangé. Donc c'était cool, j'étais vraiment scotchée sur mon siège en tension dans plein de moments, donc ça c'est top. Après j'ai un mini bémol, c'est que je sais pas trop pourquoi, mais j'ai quand même trouvé le temps long, même si je me suis pas ennuyée, même s'il y a pas des passages où je me suis dit oh, ça c'est lent, ou comme dans le 1 où je me suis dit oh là j'aurais cuté et enlevé ça, vraiment pas du tout, mais j'ai quand même trouvé, j'ai ressenti le fait d'avoir passé quasiment 3 heures sur mon siège. Alors est-ce que c'est à cause du côté assez contemplatif du film où du coup on voit le temps défiler entre guillemets, ou est-ce que c'est parce que c'est pas trop ma came, ce genre cinématographique de base, et du coup voilà, j'ai bien aimé, mais pas emballé au point de aller le voir plusieurs fois. Ou peut-être tout simplement parce que bah, ça faisait des mois et des mois que j'ai pas été au cinéma. Hein. Ayant un bébé, c'est compliqué de trouver du temps. Et puis, surtout une personne pour y aller. Parce que souvent, j'allais avec mon mari. Et là, bah, c'est plus possible d'y aller avec Tib. Voilà, je sais pas trop si c'est un mix de tout ça. Mais c'est le seul petit bémol que j'aurais vraiment. À part un passage du film qui m'a pas plu. Mais on reviendra dessus. Et toi, du coup?
Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai préféré au premier pour les raisons que tu disais, pour qu'il est plus abouti au niveau du rythme. C'était plus facile aussi qu'il soit plus abouti au niveau du rythme parce que la partie du livre qui était adaptée, il y avait plus d'action et il n'y avait pas toute la partie exposition qui était indispensable dans le premier et qui n'était pas facile à adapter. Parce que aussi, la grosse différence par rapport à mon expérience du premier film, c'est que cette fois-ci, j'ai lu le livre, puisque j'ai lu le livre complet et non pas que la première partie entre le premier et le deuxième film. Donc, je savais, je connaissais l'histoire, je connaissais beaucoup, beaucoup mieux l'univers. J'étais acclimatée à tout ça et donc, j'y allais aussi avec un autre regard où, du coup, j'avais trouvé assez peu de défauts dans le premier, à part la fin qui était un petit peu, même quand tu connais pas le livre, tu dis on reste un peu sur notre fin à la fin de la première partie. Là, dans le deuxième, les critiques que j'ai, c'est plus des critiques par rapport à l'adaptation. Même si je trouve que c'est une très, très, très bonne adaptation. Il y a des choix que je trouve des très bons choix. Mais en fait, je me rends compte, surtout en l'analysant, en y réfléchissant, ce que j'ai même apprécié au premier coup et que auquel je repense en deuxième revisionnage, je dis, si je deviens un petit peu pointilleux, c'est plus par rapport à des choix d'adaptation. Mm-hmm. Donc, c'est pas du tout la même expérience, mais j'ai adoré. Enfin, je pense que si j'avais le temps et un cinéma à portée de pied, j'irai aussi le revoir plus que deux fois, mais voilà, c'est plutôt au niveau logistique pour d'autres raisons que toi, et je suis aussi très déçue de pas pouvoir le voir en IMAX. J'ai pas vu le premier non plus en IMAX, je l'avais vu en Dolby Cinema, mais c'est la même format d'image, et je sais que le format IMAX, on a une beaucoup plus grande image, on perd beaucoup dans la, mais bon, quand on ne le sait pas, ça ne gêne pas, je trouve, à l'appréciation du film. Mais quand on voit à quoi ça ressemble, le format de l'image IMAX, ça donne très envie. Mais il n'y a pas de salle IMAX à Nantes. Et la plus proche est à Tours. Donc,
c'est loin.
Très loin. Très, très loin. C'est 2h30 de route. Donc, non.
Et je rebondis sur l'adaptation. J'ai vu, juste avant de venir enregistrer en plus, donc c'est marrant parce que du coup, on n'en parle pas, mais j'ai vu une interview de Denis Villeneuve. Là, il disait que s'il avait voulu faire ce film, parce qu'il est adolescent, il avait beaucoup aimé le livre, c'est parce que justement, l'adaptation du livre de David Lynch dans le premier Dune lui convenait pas tout à fait. Il trouvait que c'était plus du Lynch que du... Il disait ça texto. C'était plus du Lynch que du Herbert, c'est ça le nom du... Si je me trompe pas, du...
Frank Herbert.
Ouais. Et que lui, il voulait plus du Herbert. Mais comme tu le dis, forcément, à des moments, tu es obligé de prendre d'autres partis pris. Et pour une scène en particulier, je pense qu'il a eu raison. Et c'est la même scène qui m'a déplu.
Il a raison, mais il a eu raison. Et non, il a fait un super travail. Et ses choix sont assumés. Et c'est ça qui est cool. Forcément.
Mais ça peut jamais. Enfin, je pense que quand on fait une adaptation, on a aussi des attentes. Et forcément, il y a toujours un petit décalage. Je pense qu'on ne peut pas penser exactement comme Villeneuve.
Oui.
Mais c'est normal.
C'est vrai que j'ai entendu des retours de gens qui font vraiment des fans hardcore des podcasts que je suis sur Dune ou de chaînes YouTube, etc., qui disent que c'est la meilleure adaptation qu'on puisse avoir en 2024. Enfin, que peut-être que dans 20 ans, 25 ans, on pourra faire autrement avec d'autres moyens, avec un autre goût du cinéma aussi. Mais dans le cinéma d'aujourd'hui, ce qui est possible de faire, enfin, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Après, voilà, forcément, il y a toujours des petits choix. On peut ne pas être d'accord, mais dans l'ensemble, je suis quand même rassurée, parce que c'est vrai que j'avais tellement aimé le premier que j'aurais pu être déçue du deuxième. Ouais. C'est pas du tout le cas. Au contraire, je trouve encore mieux. Donc,
Tant mieux.
C'est trop bien.
Bon, comme tu l'as dit, on va pouvoir attaquer en se lissant, dicté par nos émotions. Balayons émotion par émotion, et puis voyons où ça nous guide. Enfin, je dis voyons où ça nous guide, on a quand même préparé. Hein. On fait pas du full impro sur Dune, sinon je pense qu'on y resterait 4 heures.
On voit les futurs possibles, et on a choisi notre voie, donc on va suivre ça.
C'est ça. Et moi, j'ai bien envie qu'on commence par de l'excitation, parce que comme tu dis, on était hyper excités d'attendre ce film et de enfin le voir. Et mais on a été également excités, impressionnés par une scène qui était déjà présente dans la bande-annonce. Il s'agit du chevauchement du ver de sable par Paul, donc aka Timothée Chalamet.
Qui non seulement était en partie dans la bande-annonce, qui était aussi la scène qui était... qui avait été révélé en avance quand la première partie est ressortie au cinéma le mois précédent la sortie du 2. À la fin, on avait, je ne savais pas quand je suis allée le voir, on avait voilà, une petite interview, enfin, petite introduction de Zendaya et Timothée Chalamet, et puis de Denis Villeneuve qui nous tease un peu le film. Et puis après, genre, oh surprise, une scène complète du film pour vous. Et c'était cette scène-là. Donc, du coup, je l'avais déjà vue. Hors contexte du film, mais bon, comme je connaissais l'histoire, je l'attendais aussi, cette scène.
Ouais.
Donc c'est vrai que cette scène, pour le coup, je l'ai vue trois fois du coup au cinéma. Mais ouais, les trois fois, j'ai trouvé incroyable, quoi. Techniquement, c'est fou. Ça donne hyper envie de voir des making-of, de voir comment ils l'ont fait. Et la tension, la manière dont c'est filmé, le gigantisme, c'est génial. Moi, c'est une des meilleures scènes du film, c'est sûr.
Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais pas voulu voir la bande-annonce au départ, et je l'ai vue dans Quotidien, parce que l'équipe du film est passée dans Quotidien, j'ai regardé. Et ils ont mis la bande-annonce et je me voyais pas, je me suis pas dit, bon, allez, je vais regarder ailleurs. Mais du coup, je l'ai vue là et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Je suis sûre qu'en sur écran géant, elle va être chouette. Et en fait, ça gâche même pas la surprise, parce que c'est vrai qu'entre la voir sur ta télé et la voir sur écran au cinéma, ça a rien à voir. Et quand je disais que j'avais des scènes, tu vois, où j'étais assez waouh, scotché sur mon siège et tout, bah là, clairement, ça en faisait partie. Et donc, je me suis un petit peu renseignée de comment ils ont fait cette scène, parce que bah, je trouvais assez intéressant. Alors, effectivement, je pense que des making-of, ça va être terrible. Et c'est Paul Lambert, qui est le superviseur des effets visuels, qui a eu la lourde tâche de la réaliser. Mais il avait déjà collaboré avec Denis Villeneuve, ils se faisaient confiance mutuellement. Ils avaient travaillé sur Blade Runner 2049 et le premier Dune, déjà. Et j'avais lu une interview où Villeneuve expliquait que ce qui lui plaisait chez Paul, c'est qu'il trouvait toujours le moyen de tout faire fonctionner. C'était un génie, une sorte de savant fou. Et je trouve ça trop mignon de faire autant confiance. Enfin, je trouve ça chou, une relation comme ça entre le superviseur des effets visuels et le réalisateur, et qu'ils aient une complicité et qu'ils se fassent confiance comme ça. Je trouve ça bien. Et de son côté, aussi en interview, Paul Lambert, il a expliqué que c'était la scène la plus dure à réaliser. Et donc en fait, pour ça, l'équipe technique a introduit des tubes à l'intérieur de la dune de sable, donc trois tubes. Et c'est des espèces de tracteurs qui les ont retirés pour faire que la dune s'écroule. Et donc Timothée Chalamet tombe dans le vide. Et en fait, il tombe pas vraiment dans le vide, il tombe sur le verre, le verre qui a été rajouté en infographie. Mais bon, c'est pas vraiment Timothée Chalamet, hein, c'est sa doublure cascade, Lorenz Hideyoshi, qui a fait tout ça. Et voilà, je sais qu'en infographie, ils ont aussi rajouté je sais pas exactement ce qu'ils ont rajouté, mais ils ont fait en sorte qu'on ait l'impression qu'ils tombent de beaucoup plus haut, que la scène soit encore plus grande. Voilà, mais c'est vrai que j'ai trop envie de voir un making-of avec ces tracteurs qui enlèvent les tubes et le sale tube qui s'écroule.
Oui. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'avais regardé des interviews de Denis Villeneuve, et quand on l'interrogeait sur cette scène, il était vachement plus mystérieux, en mode je veux garder un peu la magie, quoi, de comment on a fait, et il plaisantait en mode ouais, le plus dur pour cette scène, ça a été le casting du verre, trouver le bon verre de la bonne taille et qui passe bien à l'écran. Enfin bref, il s'est pas mal amusé à parler de ça, mais par contre, il disait qu'il a passé. Énormément de temps, Denis Villeneuve, à réfléchir techniquement comment Paul, il doit s'y prendre. Paul Atreides, pas Paul Lambert. Paul Mouadib. Comment il doit s'y prendre de manière vraiment très technique, quoi. Parce qu'en fait, cette scène dans le livre, c'est une scène hyper importante. Mais Frank Herbert, il reste assez vague sur la technique. Il ne dit pas exactement comment on fait, quoi, pour chevaucher un verre. Donc je trouve ça hyper intéressant. Enfin, puis on sent la passion quoi, derrière, de se dire ah mais tu sais, on sent le fan derrière qui dit ouais. Bon, alors si on utilise un crochet, il faut qu'on s'accroche à tel endroit et après, pour pouvoir. Et, enfin vraiment, tu sens le. Il y a plein de petits détails quoi. C'est.
Non mais c'est hyper bien fait. Hein.
Ouais ouais, c'est super bien fait.
Et comme tu disais en fait au niveau technique, moi ce qui m'a impressionné c'est bon, c'est un peu comme Nolan qui veut le moins possible utiliser d'écran vert. Bah là, tu sentais qu'effectivement, ils ont voulu faire quand même une très... Ils auraient pu faire tout en numérique, mais ils ont vraiment voulu faire une grosse partie en live. Et je trouve qu'on voit quand même la différence. Enfin, techniquement, c'est assez incroyable. Et j'ai lu une anecdote qui m'a fait rire. C'est que pour accentuer cet effet « waouh, wow, c'est dur, il est au milieu du sable et tout », ils envoyaient des rafales de sable sur Paul. Alors, ils n'ont pas dit si c'était au moment où ils filmaient le visage de Timothée Chalamet ou si c'était sur sa doublure. Mais en tout cas, ils lançaient des tonnes de sable pour accentuer l'effet. Ça devait être horrible.
Et d'ailleurs, par rapport au fait de tourner au maximum naturel, enfin en lumière naturelle, ça je l'ai vu pas mal dans une interview dont je parlerai plus tard du directeur de la photographie qui s'occupe des éclairages notamment et puis de la qualité de l'image et qui disait que bah, cette scène, ils auraient pu la faire totalement en fond vert quoi, ou en fond bleu et non, ils l'ont fait... ils ont voulu que ça soit en lumière naturelle dans le désert, quoi. Donc, ça change pas mal de choses, et notamment la possibilité d'utiliser des tonnes de sable. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai remarqué, dès mon premier visionnage, un micro faux raccord. Et du coup, au début, j'étais genre... j'attendais mon deuxième visionnage pour vérifier. On voit pas le moment où Paul, il met ses lunettes de protection. Et en fait, ça me perturbe parce que on le voit courir sur la dune de sable. Et à aucun moment, on le voit mettre ses lunettes. Et après, on le voit qu'il se prend plein de sable. Je dis, mais comment il fait pour voir? Et après, on a un gros plan. On a ses lunettes qui sont couvertes de sable. Et quoi, je me dis, il nous manque le moment où il met ses lunettes, quoi.
Et ils ont filmé à un moment le verre, par exemple, ou du coup, il aurait pu, pendant ce temps-là, mettre ses lunettes, ou même pas, il s'est focus sur lui tout le temps, tu as vu?
Bah, c'est surtout qu'en fait, on le voit courir avec ses deux crochets, ses deux...
Oui, ah bah oui, mais oui, il a les mains pleines.
Comment, et du coup, il aurait prises. Dû les mettre avant, j'imagine, mais je sais pas. Enfin bref, c'est un micro-détail, hein. Ça se trouve, c'est moi qui ai loupé un truc, mais... Puisqu'on parle de scène d'action, celle-ci, certes, c'est... une des plus marquantes. Mais moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, toutes les scènes d'action, elles étaient vraiment impressionnantes et vraiment prenantes. Et je voulais citer l'attaque de l'harvester, je ne sais pas comment on dit en français, le truc qui récolte l'épice, avec Paul et Shani. Donc, quand ils sont tous les deux, et il y a Shani qui a l'espèce de bazooka. Et,
oui.
J'adore. Je la trouve trop bien, cette scène. Et j'ai bien aimé aussi la manière... Enfin, ça joue sur le gigantisme de cette énorme machine. Et puis, eux qui jouent
tout
avec
petit,
le ornithoptère qui vole autour. Et enfin, voilà, j'ai trouvé ça... Et puis aussi, bah, comme la scène dont on parlait avant, on est à le point de vue de Paul. Donc, on est proche de lui. Et on le voit qui panique, enfin pas qui panique, mais qui, enfin avec le verre qui est genre ok, qui est là, et puis dans l'autre qui est quand il a le mauvais timing, et du coup il est oh fuck, et les gens et en fait les autres Fremen de loin qui s'en rendent pas compte et qui voient oh ils savaient tout, il avait il sait exactement le bon timing, en fait non, quand on le voit au ras du sol, tu vois que non, il s'adapte quoi, il est pas surhumain, mais de l'extérieur ça donne l'impression qu'il est surhumain, quoi.
Qui voit tout.
Ça, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, non, je suis d'accord. Mais les scènes d'action ont effectivement été très bien réussies et assez impressionnantes, ouais. Tu parlais de Shani. On va continuer à balayer nos émotions, puisqu'on a ressenti beaucoup d'amour et d'affection dans ce film. Et je dirais plus que dans le premier. Bon, ouais, après, c'était pas très compliqué, puisque dans le premier, il voit pas beaucoup Shani. Non, mais il aurait pu avoir de l'amour et de l'affection avec sa mère, ou tu vois, on aurait pu avoir de l'amour...
Avec son père, quand même.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Avec sa mère, je suis pas du tout d'accord, mais avec son père, oui.
Le couple Leto-Jessica, il est quand même touchant aussi. Non ?
On reparlera de Jessica. Elle m'inspire d'autres émotions.
Certes.
Mais en tout cas, voilà, là, effectivement, on a ressenti de l'amour et de l'affection. Et moi, personnellement, j'ai été beaucoup prise d'affection pour Shani, qui a été merveilleusement interprétée par Zendaya, et qu'on découvre enfin après tant de teasing, parce que c'est vrai qu'on ne la voyait pas beaucoup dans le 1, et tout le monde se moquait un peu en mode pub de parfum et tout, on la voit dans le désert avec ses yeux bleus, et tout ça, j'ai eu beaucoup de tout ça pour ça. Mais voilà, on savait que dans le 2, elle allait avoir un rôle plus important, hein, même sans avoir lu le livre, c'était évident. Et voilà, je trouve que là, justement, elle fait ses armes, entre guillemets, et on s'attache facilement à elle. Enfin, moi, je me suis fortement attachée. J'ai adoré le couple qu'elle a formé avec Paul. J'ai eu le cœur brisé en même temps qu'elle quand Paul l'a trahi à la fin. Parce que oui, hein, c'est une trahison. Peu importe ses objectifs, c'est une trahison. Et pareil, la fin où elle fuit en verre de sable, c'était hyper émouvant. Enfin, je trouve qu'elle fait passer énormément d'émotions dans son visage. Contrairement, par exemple, à une Léa Seydoux.
Bon, ouais, il y a
un peu de mieux dans ce film-là, on y reviendra aussi.
Ça avait sens dans ce film, que Léa Seydoux n'ont pas d'émotion et que Zendaya en montre.
Ils ont bien fait de la choisir. Non, mais voilà, je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose, sans en faire trop, et j'ai adoré son personnage.
Ouais, bah, je suis d'accord sur l'effet que ça fait, mais moi, c'est vrai que j'ai été assez... agréablement surprise parce que pour le coup, moi même si je m'en doutais, parce que bon, si tu castes Zendaya et la manière dont il le tease, c'était pas pour en faire la même Shani que dans le livre, qui est un super personnage, hein, elle est très badass dans le livre, mais elle est très peu présente et assez, pas transparente, mais un peu en arrière-plan. Alors que c'est quand même le grand amour de Paul, hein, ça change pas, mais du coup. Là, cette Shani-là, elle est beaucoup plus attachante et c'est une grande aide, je trouve, par rapport au livre, d'avoir donné ce rôle-là à Shani pour aider le public à saisir les enjeux. Parce que ça, c'est un gros changement par rapport au livre. Le fait que Shani ne croit pas en ces histoires de Messie, qu'elle soit très réticente par rapport au rôle que doit endosser Paul. Cette histoire d'Elissa Nalgaïb, tout ça, Shani, elle y croit pas dans le film, alors que dans le livre, c'est très différent parce que Shani, elle suit une formation, elle fait partie de la même caste que la version Fremen des Bene Gesserit, en fait. Elle n'a pas la même éducation, c'est la version Fremen, mais elle est plus proche de Jessica, en fait, au niveau du rapport à la mystique, etc. Et du coup, c'est très, très, très différent, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, je préfère la version du film parce que c'est plus facile de comprendre à quel point il y a de la manipulation autour de Paul. On en parlera plus tard. Et puis, bah, toutes ces petites scènes où on voit leur relation grandir et tout ça, où elle lui apprend.
C'est tellement mignon.
Je ne m'attendais pas, tu vois, parce que c'est un truc vraiment très mignon, façon... Bah, pas du tout le même sentiment que dans le premier film, quoi. C'est plus chaleureux, quoi.
Moi, c'est pas que je m'y attendais, mais j'espérais ça, hein. Honnêtement.
Oui.
Voilà, ceux qui ont déjà écouté Pop T me connaissent. Je suis une grande romantique, j'adore les histoires d'amour. C'est vraiment le truc qui me fait regarder des films, généralement. Pas que, mais ça aide. Là... On nous avait tellement teasé Zendaya, lui qui faisait des rêves d'elle et tout. Je me suis dit, s'ils nous font pas une histoire d'amour avec ça épique, oui, entre guillemets, enfin pas juste, tu vois, on voit rien et au fur et à mesure, on voit qu'ils sont ensemble, j'aurais été déçue. Après, j'aurais aussi été déçue si elle avait pris trop d'importance, trop de place, dans le sens où si on était tombé dans le cucul à praline. Bon, connaissant Villeneuve, je savais que ça allait pas être le cas, mais là, je trouve qu'elle est quand même parfaitement dosée. On a une alchimie qui est bien présente, mais qui est subtile, vraiment. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de la lumière. J'ai lu, et effectivement, quand j'y repensais, je me dis, mais c'est vrai ça, que Denis Villeneuve, il a fait exprès de tourner toutes les scènes de couple un peu d'amoureux ensemble pendant, je ne sais pas si tu connais, la Golden Hour. Ouais. C'est, tu sais, le, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, mais c'est le moment, le soir, juste avant le coucher du soleil, où la lumière, elle est un peu dorée. Et bah du coup, ils ont filmé toutes leurs scènes d'amour, enfin d'amoureux à ce moment-là. Et donc, ils ont expliqué en interview que Zendaya et Timothée Chalamet, ils étaient un peu sous pression parce qu'ils avaient très peu de temps. À chaque fois, c'était « C'est le moment, vite, installez-vous sur la dune, parlez !» Et donc, à chaque fois, ils devaient si il devait voilà, faire la scène. Après, bon, faudra la retourner quand même. Donc, rendez-vous demain à la même heure. Et donc, ils disaient, au moins, on avait le temps de réfléchir, de voir ça, c'était bien, ça, c'était moins bien. Mais ils étaient en plus au milieu du désert jordanien. Donc, à chaque fois, ils faisaient des kilomètres pour tourner ces micro-scènes. Je trouve ça trop drôle.
Mais c'est vrai que ce tournage, ça a l'air, pour venir sur ces côtés making-of, ça a l'air quand même une expérience assez particulière. Parce que, comme tu dis, ils sont dans le désert pendant des mois. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai appris, je ne savais pas, qu'il y a un livre qui a été fait, entre un livre de photos. Donc, c'est le directeur de la photo, justement, qui est photographe à la base, et qui a pris des photos. Et Josh Brolin, qui a écrit des poèmes, enfin de la poésie, qui va avec, parce qu'il écrit aussi.
Mais oui, il a écrit une chanson du film, d'ailleurs.
Oui, bah, la chanson, mon style suit full of peace.
Oui, bah, c'est lui qui l'a écrite, je ne savais pas.
Avec Hans Zimmer, ouais. Et du coup, il a écrit aussi de la poésie. Oh. Et ce livre a l'air trop beau. J'en ai vu un peu des images et tout. Et on voit des images de making of, quoi. Et j'aimerais trop mettre la main dessus, mais il est en rupture, là. Je crois qu'ils n'ont pas prévu à ce tirage.
Bah, tu m'étonnes. Ça, c'est sûr que ça fonctionne bien.
Mais pour revenir à Shani, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ai un seul bémol et une petite frustration sur le choix d'adaptation encore. Comme je disais, ça va être les petits trucs sur lesquels je vais être un petit peu pointilleuse. C'est l'utilisation du nom Zihaya. Puisqu'à un moment, elle dit, voilà, mon nom, donc Shani, c'est son nom de guerrière. Et son nom Fremen, c'est Zihaya, Desert Spring, printemps du désert.
Ouais.
Et elle n'aime pas ce nom parce que c'est lié à une prophétie. Et en fait, ça nous tease le rôle qu'elle a dans la résurrection.
Résurrection.
Résurrection, c'est ça. Je veux dire, c'est pas bon.
En plus, j'y croyais à fond. Résurrection. Bah si, c'est ça.
La fameuse ressuscitation du Christ. Bref, ouais, le rôle qu'elle a avec l'alarme du printemps du désert, machin. Donc ça, c'est pas du tout dans le livre. Ça, c'est une totale invention. Par contre, Zihaya, c'est vraiment un nom qui est utilisé, mais en fait, c'est le nom qu'utilise Paul, son surnom affectif, ouais. qu'il utilise avec Shani. Enfin, ouais, il l'appelle Mazihaya, quoi. Mmh. Et je trouve ça... Enfin, c'est plus mignon quoi,
bah ouais, carrément.
Que le côté oh, j'aime pas ce nom, c'est lié à une prophétie, alors que
ouais, c'est dommage.
Ça, j'ai trouvé ça bizarre, ça m'a fait un peu bon. Et puis surtout, bah, quand j'ai vu ce que ça a donné dans la scène de la résurrection de Paul, j'ai pas aimé cette scène. En fait, j'ai trouvé que ça allait pas au personnage de Shani. Jessica force Shani à faire ce qu'elle a à faire, et je trouve que ça, c'est nul, parce que s'il lui avait juste expliqué que t'es la seule qui puisse sauver Paul, elle l'aurait fait, il n'y avait pas besoin que Jessica utilise la voix pour la forcer. J'ai pas du tout aimé cette scène, et plus j'y repense, moins je l'aime, cette scène. Et je trouve que c'est dommage, parce que même si dans le livre, ça aurait pas pu être comme dans le livre, parce que le contexte avec Shani, tout ça, c'est très différent. Mais bon, je trouve que c'est quand même un petit défaut d'écriture, un peu facile, que j'ai pas trop apprécié.
Moi, je te rejoins là-dessus. Moi, sur le moment, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Je me suis dit, mais ça va hyper vite, hop, bim, boum. Ça fait, enfin, ok. Alors que tout prend son temps un peu dans le film, à part deux instants, celui-là et quand il change d'avis pour aller dans le sud. Mais ça se comprend, au moins ça se comprend mieux. Je me suis dit, mais ok. Enfin, du coup, aucune émotion. Je suis restée très neutre face à cette scène. Et tu vois, j'avais oublié jusqu'à ce que t'en reparles, quoi. Alors que ça aurait pu être une scène très romantique, très mignonne. Mais bon.
Ouais.
Non, sur Zendaya et Timothée Chalamet, je voulais juste conclure sur cette histoire d'amour sur une citation de Timothée Chalamet que j'avais lue et que j'ai beaucoup, beaucoup aimée parce que j'étais totalement d'accord avec ça. Puisqu'il dit que l'univers de Dune est complexe, truffé de métaphores écologiques, technologiques qui sont encore d'actualité aujourd'hui, et je me suis dit, ouais, en fait, dans le 1, j'ai bien aimé le 1, hein, mais j'ai trop des longueurs, parce que justement, pour moi, ça tournait trop autour de ça, et il rajoute, mais tout ça gravite autour de l'histoire d'amour entre Paul et Shani, sans ça, la prophétie qui entoure mon personnage serait trop abstraite, Shani devient sa boussole morale, elle est celle qui donne un ancrage, une dimension humaine à la prophétie, et je trouvais que c'était exactement ça, en fait, et c'est ce qui me manquait un peu au 1, et que du coup, j'ai vraiment retrouvé au 2, pas juste parce qu'il y a de l'amour et que je suis une amoureuse de l'amour et tout ça, mais vraiment parce qu'effectivement, ça apporte une dimension différente. Et ouais, c'était la bonne chose à faire, je trouve.
Ouais, et c'est vrai que Du coup, entre-temps, dans la semaine qui a suivi mon visionnage, j'ai lu Le Messie de Dune, qui est assez court, hein, c'est 200 pages, c'est pour ça que j'ai réussi à le lire en deux
semaines. Donc ils vont faire qu'un seul film sur lui.
Ah oui, c'est sûr. Mais du coup, Denis Villeneuve a déjà dit que lui, il veut aller jusqu'au Messie de Dune. Il veut le faire, ce troisième volet, parce que c'est vraiment, ça clôt l'histoire de Paul et de Shani, pour le coup, parce que là, la relation entre Paul et Shani est vraiment très, très importante dans ce qui se passe dans le Messie de Dune. Mais vu comment finit le deuxième film, je suis genre, comment ils vont faire? Parce que là, ça, il y a une espèce de rupture, quoi, à la fin du... Même si Paul dit
elle comprendra,
s'il voyait mais je... dans le futur, elle reviendra quoi.
Mais je pense, il voit dans le futur, donc il sait qu'elle va revenir.
Ouais. Bon. Mais du coup, c'est vrai. Que c'est... Après, il va être obligé de changer le rôle de Shani parce que même si il y a des trucs très 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 émouvants dans le Messie de Dune autour de deux, il y a quand même un rôle de Shani réduit à quelque chose que je peux pas dire et qui est. Qui ne pourra pas passer avec cette version-là.
J'ai été spoilée. J'ai été me spoilée. Hein. Je voulais juste savoir ce qui se passait.
Donc,
n'en parlons pas.
J'ai de changer ça parce que cette Shani-là, ça ne colle pas. Enfin, je ne vois pas Zendaya dans cette version-là de Shani, c'est sûr. D'un côté, ça tease bien aussi l'importance qu'a cette... Ça tease mieux l'importance qu'a cet amour de Paul et Shani. Dans le Messie de Dune, ça le tise mieux dans les films que dans le que dans le livre où c'est plus en arrière-plan. Mais
okay.
En parlant de choses plus chaleureuses, etc. Il y a quand même autre chose moi que je voulais mentionner aussi qu'on a un peu parlé avec le fait autour de Shani, mais moi c'est plus largement autour du quotidien des Fremen. J'ai trouvé ça très immersif et très très prenant de ce même si ça fait partie de ce côté un peu contemplatif, comme tu disais. Mais je me suis vite attachée, en fait, à ce groupe, à cette communauté, dans la manière dont c'est abordé. Il y a beaucoup plus de familiarité et, que même que dans le premier film, où on a les Atreides, ou même les Atreides qui sont les good guys, entre guillemets. C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus vide aussi. Et là, j'ai trouvé ça... Ben voilà, il y a de l'humour, il y a tous les moments où ils sont ensemble sous les à plaisanter les uns avec les autres. J'ai beaucoup aimé le personnage de la pote de Shani.
Moi aussi.
Un personnage qui existe quasiment pas, enfin le nom existe mais le personnage n'existe pas dans les et je l'ai trouvé hyper elle avait un rôle et je trouvais très chouette. Donc puis Stilgar évidemment, on en parlera plus tard,
j'adore. Mais
j'ai vraiment aimé cette immersion et tous les petits détails et ça fait partie du côté affection je trouve qu'on ressent.
Ouais, je suis totalement d'accord, je te rejoins vraiment là-dessus. Pour info, c'est quelque chose qui a déplu à Thibaut avec qui j'ai été voir le film puisque lui il a pas trouvé ça utile dans le développement de l'histoire alors que moi justement comme toi j'ai aimé être immergée dans cette culture, c'était vraiment la petite pause mignonne, affection parmi la guerre et puis je trouve que sans ces scènes, on ne se serait pas forcément autant attaché effectivement aux personnages. Et puis, on aurait moins vu que Paul, au final, intègre hein, les Fremen. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'ai lu, et tu vas en parler un peu plus, mais que les Fremen étaient inspirés du nom que se donnent les Touaregs et d'autres peuples berbères d'Afrique du Nord, qui signifient les Imazigen, qui signifie littéralement les hommes libres, donc Fremen en anglais. Pour l'anecdote, mon grand-père était Touareg. Voilà. Anecdote inutile, ça m'a fait sourire de voir que leur nom était inspiré de là. Et effectivement, on sent quand même pas mal l'inspiration arabe dans leur culture et dans leur langage. Et j'ai trouvé ça chouette d'en découvrir plus sur eux, leurs rituels funèbres, les soirées qu'ils passaient tous ensemble, et puis voilà, toutes les petites informations concernant leur vie quotidienne qui étaient distillées par-ci par-là.
Enfin, ça, pour le coup, j'ai vu des retours que ça fait beaucoup plaisir à ceux qui étaient frustrés ou pas contents de la manière dont David Lynch avait adapté les Fremen, où ils sont tous blancs et où on sent pas du tout cette inspiration qui pourtant est hyper évidente dans le livre.
Même dans les mots, dans les noms employés.
C'est ça. D'ailleurs, ils n'ont pas utilisé tous les mots parce que c'est vrai que la fameuse guerre sacrée que veut éviter Paul, c'est le djihad, qui s'appelait le djihad dans les livres.
Ouais, et, donc, je comprends pourquoi ils ont pas utilisé.
Okay. Mais, non, mais c'est vrai que ce soit l'inspiration, comme tu dis, berbère, touareg, arabe, c'est hyper présent. Et à propos de ça, c'est vrai que j'ai forcément, ça, comme d'habitude, ça fait réagir autour de est-ce que c'est de l'appropriation culturelle de la part de Denis Villeneuve ou pas, et de Frank Herbert par extension aussi. Donc j'encourage à écouter les avis des personnes concernées. Comme tu disais, toi, que le fait que tu as des origines, ça t'a fait un effet quand même de te dire c'est représenté dans cet univers-là. Mmh. J'ai entendu aussi d'autres personnes qui justement disaient pour une fois, c'est une représentation qui n'est pas négative, on n'est pas représenté comme des terroristes, même si il peut y avoir débat parce que les Fremen sont...
Il peut y avoir débat. Il peut.
Voilà, mais c'est quand même positif. Enfin, c'est pas les méchants, les Fremen, quoi. On sent qu'ils ont fait leur recherche, que c'est quand même des références qui sont traitées avec respect. Mm. Mais ça peut aussi... ça peut aussi faire tiquer certains, effectivement, que dans les personnages, en tout cas principaux, ce ne soit pas des personnages, que ce soit Javier Bardem ou Zendaya. Certes, c'est des personnes de couleur, mais ce n'est pas des acteurs originaires de ces régions-là. Ça fait partie des... on ne peut pas échapper à ce type de remarques. Mais je voulais quand même réagir par rapport à des discours que j'ai vus passer. Qui regrettaient que dans la promo du film, ils ont jamais fait de lien explicite avec les cultures dont ils s'inspirent clairement, et que ça pouvait être problématique et que ça pouvait être un signe d'appropriation culturelle de pas ne serait-ce que citer dans la promo les références qu'ils utilisent. Je pense que c'est un choix, comme le fait de ne pas utiliser le mot djihad, je pense que c'est un choix de communication qui est plutôt prudent et intelligent, d'autant plus en 2024, où le climat est très très tendu, notamment lié au génocide en cours en Palestine, et que du coup, le message de Dune autour des Fremen, certes, il est très pertinent et il invite à se poser beaucoup de questions et sur notre propre histoire, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, etc. Mais il peut aussi être très facilement mal interprété ou déformé dans le cadre un peu épidermique où il y a beaucoup d'émotions. Comme on parle d'émotions, il y a beaucoup d'émotions autour de la géopolitique actuelle. Et je trouve que c'était plutôt une bonne manière de... pas de dépolitiser le film, parce qu'on peut pas dépolitiser Dune, c'est hyper c'est politique, mais pas d'essayer d'éviter des parallèles qui risquent de pousser à une déformation du message, quoi. Voilà, c'était juste pour le mentionner, parce qu'on peut pas trop passer à côté en ce moment, mais c'est... voilà mon avis.
Non, t'as bien fait de le préciser, j'ai le même avis. Émotion suivante. Alors, certains personnages ont suscité quand même des émotions assez différentes chez nous deux. Et du coup, plutôt que de faire une émotion et ensuite l'autre, on regroupe tout. Alors, moi, ça a été plutôt la colère. Et pour toi, un mélange de fascination et de dégoût. Donc là, c'est le moment où vous dites, de qui elle parle? Eh bien, il s'agit des Bene Gesserit. J'ai prononcé ça, je ne sais pas trop comment.
Ouais, c'est Bene Gesserit apparemment en français, parce que moi j'ai tendance à dire Gesserit, mais en fait c'est Gesserit parce que c'est du latin. Oh. Et c'est Bene Gesserit en anglais. Voilà.
Ok.
Petit rappel, on parle de qui quand on parle des Bene Gesserit? Alors, Jessica, évidemment, la mère de Paul. Gaius Hélène Moyam, la révérende mère, c'est la vieille.
Comment la décrire, la vieille?
Oui, de toute façon, il n'y a qu'une vieille femme, c'est elle. Tout à fait. Non, c'est pas vrai, il y a les autres révérendes mères chez les Fremen. Bref, non, là, c'est celle qui teste Paul dans le premier film et qui est la formatrice de Jessica. Margot Fenring, Léa Seydoux, c'est aussi une Bene Gesserit. Et dans une moindre mesure, même si elle est plus présentée comme Bene Gesserit dans le film que dans le livre, c'est... Non, c'est pas vrai, c'est une Bene Gesserit dans les deux cas. Irulan, la fille de l'empereur, qui est jouée par Florence Pugh, qui a aussi une formation Bene Gesserit, même si je sais pas si on peut la considérer comme une Bene Gesserit à part entière, je me souviens plus, mais
en tout cas, elle est dans ce groupe-là. C'était pas très clair, ouais.
Non.
On voit qu'elle a une formation, mais on a l'impression qu'elle est à part.
Bah, parce que c'est la fille de l'empereur, donc c'est...
Oui, peut-être.
C'est différent, mais... Donc, ouais, par rapport à mon avis, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt les... et trouver assez fascinantes les Bene Gesserit, mais j'ai quand même une relation compliquée avec elles, et plus j'avance, y compris dans, à la fois dans le film et surtout dans les livres, plus bah, je les trouve certes intéressantes, mais avec des gros défauts. Et enfin, je peux pas les... D'un côté, il y a un côté un peu bah, appréciable d'avoir un groupe de femmes aussi fortes qui tirent les ficelles, qui sont derrière tout. Enfin, c'est elles les... qui animent l'histoire. Enfin, elles ont vraiment un énorme, énorme pouvoir par rapport à la plupart des personnages. Il n'y a que Paul qui a plus de pouvoir qu'elle, quoi. Donc, mais en même temps... au-delà de leur impact hyper énorme, bah, leurs méthodes, elles sont quand même un peu discutables, donc, voire très discutables. Et elles ont une morale qui est un peu étrange. Donc, et la manière, effectivement, c'était l'effet que ça me faisait déjà dans les livres. Et c'est vrai que dans les films, bah, là, pour le coup, le côté dégoût, je le trouve un peu plus... Jessica, je la trouvais plutôt... J'étais plutôt dans la fascination dans le livre, et là, je la trouve... J'ai beaucoup plus de mal avec Jessica dans le film que dans le livre.
Ah mais moi, c'est quand je dis colère pour les Bene Gesserit, clairement la colère, elle est dirigée envers Jessica. Hein. Ça passe pas du tout, du tout. Je la trouve extrêmement antipathique. C'est hyper violent ce que je vais dire, mais je la déteste, quoi. Vraiment. Mais déjà, dans le 1, c'était ça. Hein. Donc, c'est pour ça, quand t'as dit, ouais, c'est une histoire d'amour avec Oscar bah, Isaac
dans le,
et tout.
Dans le 1, je la trouvais...
Ah non.
Moi, dans vraiment, le 1, je la trouvais touchante. Alors qu'elle n'était pas touchante dans le livre.
Ah non.
Mais il y avait beaucoup plus d'émotion dans le 1 et...
Non, alors moi je la trouvais déjà pas touchante et j'étais déjà en colère contre elle dans le 1 parce qu'en fait pour moi clairement elle fait vraiment passer les Bene Gesserit avant le bonheur de son fils. Alors certes on voit qu'elle est touchée quand il va faire la boîte, qu'elle a de la peine et tout, mais en fait elle veut, et dans le 2 encore plus, elle veut tellement le pousser à ce qu'il soit l'élu, tout ça, alors que ça le rendra pas forcément heureux, mais tu sens que elle le manipule, elle l'utilise, enfin je sais pas, je la trouve vraiment détestable, hein. Et c'est ça qui m'a énervée. Alors bon, après, les Bene Gesserit en elles-mêmes, elles m'ont un peu énervée parce que je les comprends pas. Clairement. Clairement, j'ai trop du mal à les cerner. J'arrivais pas à savoir mais qu'est-ce qu'elles veulent, c'est qui exactement, c'est quoi leurs envies, comment elles arrivent à manipuler tout le monde, mais elles sont de quel côté, elles veulent quoi, est-ce qu'elles sont pas avec l'empereur, elles sont pas avec Paul, elles sont avec qui et du coup, j'avais été tapée sur Internet, enfin, je sais plus, peut-être ambition ou objectif Bene Gesserit, et j'étais tombée sur Denis Villeneuve qui expliquait, parce qu'en fait, j'avais dû taper ça objectif Bene Gesserit, et j'étais tombée sur Denis Villeneuve qui dit l'objectif des Bene Gesserit, j'étais là, ah chouette, je vais enfin comprendre. Et donc, il disait, c'est d'assurer que l'humanité évolue dans la bonne direction. Pour elle, les notions de bien et de mal n'ont aucun sens, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est de mener l'humanité à son plein potentiel et d'essayer de créer un être qui amènera l'humanité à l'illumination. C'est leur objectif, elles y sont consacrées des milliers d'années de planification et de contrôle. Ce sont les véritables maîtresses de l'univers, le temps est leur meilleure arme. Elles voient le monde en siècle. Et moi, j'étais là, ok, bah j'ai toujours rien pigé. C'est quoi ça, l'humanité évolue dans la bonne direction, l'humanité a son plein potentiel. Je me suis dit, mais... il a fumé quoi, il a mangé de l'épice avant de venir. Bref, du coup, c'est pas que ça m'énerve, mais j'étais là, et... expliquez-nous, aidez-moi. Ouais.
Mais bah, en plus, c'est d'autant plus intéressant qu'il n'arrête pas de dire à Denis Villeneuve que ses choix d'adaptation, et ils sont animés par le fait qu'il veut faire un film sur les... Enfin, que lui, pour lui, c'est les Bene Gesserit qui sont le plus important, alors que dans le film, dans le livre, il y a d'autres pouvoirs qui sont, mais que lui il a totalement mis de côté pour vraiment se concentrer sur le plan Bene Gesserit et mettre les Bene Gesserit plus en avant, quoi. Donc
ouais.
Mais alors comment je pourrais expliquer la philosophie du Bene Gesserit?
Je suis toute oui, j'ai mon verre de vin dans les mains, je t'écoute.
Mais en fait c'est compliqué parce que c'est lié vraiment à la philosophie de Dune dans son ensemble, et pas que de cet univers, et aussi la philosophie, je pense, de Frank Herbert derrière, ce qu'il voulait, parce que c'est très philosophique comme livre et c'est très enfin, c'est lui qui essaye d'expliquer en même temps sa manière de voir les choses, quoi. Et en fait, l'idée de fond de Dune, c'est que la stagnation, c'est la mort. En gros, si l'humanité se met à stagner et à arrêter d'évoluer en se reposant sur son état actuel, elle va forcément dégénérer et disparaître. Et c'est sous-entendu que c'est ce qui est en train de se passer dans cet univers, parce que je rappelle qu'on est dans un futur très 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 lointain de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et là, on est dans un empire qui dure déjà depuis plusieurs générations, qui commence à être un peu ankylosé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ankysté. Et que du coup, c'est un peu la philosophie du Bene Gesserit de se dire il faut toujours que l'humanité progresse. Et il y a un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est qu'on est dans un futur où l'humanité s'est débarrassée de toute machine pensante. Donc c'est le djihad butlérien pour ceux qui veulent faire des recherches. Donc ça s'est passé il y a plusieurs... il y a au moins il y a 10 000 ans, je crois. Enfin, voilà, c'est il y a très longtemps. Et c'est à ce moment-là que le Bene Gesserit... C'est après ça que le Bene Gesserit s'est formé, puisque c'est une époque où voilà, tout ce qui est ordinateur, intelligence artificielle, c'était énormément développé. Et du coup, du jour au lendemain, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'humanité s'en est complètement, complètement débarrassée. Et sauf qu'il a fallu compenser le fait que l'humanité se prive de machines et d'intelligence artificielle en développant leurs propres capacités, quoi. Et c'est là où le Bene Gesserit s'est formé et s'est dit, nous, ça va être notre tâche d'amener l'humanité à se développer en développant le maximum de ses capacités, quoi. Et du coup, c'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres, comme je disais, il y a d'autres confréries, d'autres ordres qui ont développé, qui ont poussé d'autres voies que celle du Bene Gesserit pour se... Pas pour le même objectif, mais plus ou moins pour l'objectif quand même de compenser le fait qu'ils n'ont pas de machine. Pour le Bene Gesserit, il y a une chose principale, c'est de créer cet être suprême, le Kwisatz Haderach, qui est en fait un homme, forcément. D'après elle, c'est un homme, mais dans les livres, on se rend compte au bout d'un moment que ce n'est pas forcément un homme, qui a accès à la fois à la mémoire génétique de toutes les femmes et de tous les hommes, puisque les révérendes mères, celles comme Gaius... machin Moham et je sais jamais son nom et Jessica, à partir du moment où ils boivent le poison, là, elles accèdent à tout le passé des femmes et elles ont besoin d'un homme qui puisse accéder à la fois au passé des femmes et au passé des hommes. Et une fois qu'il a accès à tout le passé génétique de toute l'humanité, c'est ce qui lui permet de débloquer la vision du futur et de débloquer du coup cette vision de tous les futurs possibles et de quel est le meilleur chemin à suivre pour amener l'humanité à son accomplissement. Voilà. Et pour créer ce Kwisatz Haderach, il y a du coup tout leur panel d'outils. Et donc, il y a la manipulation génétique, comme on le voit, mettre leur pion, donc leur sœur du Bene Gesserit, aux bons endroits pour récupérer le patrimoine génétique d'un tel et un tel et faire le bon mélange pour avoir le Kwisatz Haderach qui naît à un moment. Et il y a la Missionaria Protectiva, qui est la mission qui crée des religions, qui crée qui prépare en fait l'humanité à travers une création de croyances pour que l'humanité soit prête à accueillir ce Kwisatz Haderach et à le suivre et à reconnaître les signes et surtout que le Kwisatz Haderach ait toute l'humanité derrière lui quand il arrivera à l'éveil, quoi. Voilà, en gros.
C'est un peu plus clair déjà.
Je sais pas, non, c'est parce que c'est pas la même chose, mais c'est que Denis Villeneuve. Mais
je vois un peu je vois un petit peu leur but, quoi. Enfin,
mais en fait, c'est ça qui est frustrant avec le Bene Gesserit, c'est que d'un côté, elles sont hyper fortes. Enfin, elles ont développé à fond plein de. Enfin, elles manipulent. Enfin, elles ont un plan tellement clair. Enfin, tellement précis qu'elles ont utilisé tous les outils qui étaient à leur disposition et plus que pour tout manipuler. Sauf qu'elles sont tellement obsédées par leur truc qu'elles ont des œillères qui les empêchent d'avoir un minimum de recul moral en fait sur ce qu'elles font et c'est ça qui est frustrant.
Mais
elles font des bourdes aussi, on s'en rend compte après, mais elles font des bourdes, quoi.
Du coup, j'ai une question. Le Kwisatz Haderach, c'est Paul ou c'est pas Paul?
C'est Paul parce qu'il a survécu au
poison.
au poison. Et il n'y a qu'un Quetzalcoatl
qui peut
vivre un poison. Mais après, toute la question, c'est est-ce que c'est le seul Quetzalcoatl? Parce que du coup, il y a une autre...
Ouais, je crois que j'ai compris qui c'était l'autre.
Voilà.
On ne dira rien, on ne va pas spoiler.
Je vais le spoiler forcément quand on parlera du personnage en tant que tel.
Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je pense que tout le monde a à peu près compris. Avant de passer à l'émotion suivante, on dit un petit mot sur Léa Seydoux.
Oui, Léa Seydoux, je l'ai trouvée... j'étais vraiment convaincue. C'est la première fois que je trouve que Léa Seydoux est bien qu'elle m'a pas du tout
énervée
ni repoussée. J'ai trouvé qu'elle était parfaite dans le rôle de Margot,
parce qu'on lui demande d'être sans émotion.
Oui, mais en fait, d'un côté elle est sans émotion, mais d'un autre côté elle joue la manipulation avec Faye Drota, dont on n'a pas encore parlé, mais on va bientôt parler. Bon, évidemment, la lumière dans ses scènes, etc., ça y joue. Et la manière dont, en fait, j'ai adoré la manière dont elle utilise la voix, donc la voix avec un grand V, c'est un des pouvoirs des Bene Gesserit, de manière hyper subtile, où en fait elle influence Faye par la voix, mais de manière beaucoup plus subtile que Jessica qui fait « Do it !» c'est un truc vachement plus... Et j'ai trouvé ça vraiment... Autant ça m'énervait, là, Jessica, au bout d'un moment, elle utilise la voix pour tout n'importe quoi, genre « Tu peux juste dire « S'il te plaît, ça suffit !»
Je t'ai dit qu'elle est insupportable. Elle m'a énervé tout le film.
Ah mais oui, ça m'énerve.
Non mais par contre, alors moi je te rejoins pas sur Léa Seydoux, parce que bon, j'ai vraiment un problème avec elle, et je pense que du coup ça devient physique, enfin... Je trouve pas son jeu d'actrice bon. Enfin, je le trouve jamais bon. Bon, là, effectivement, on lui demandait d'être tout dans la retenue et c'est très bien ce qu'elle sait faire. Elle fait toujours la même tête, donc ça collait très bien. Mais tu sais que j'ai vu une interview d'elle il y a pas longtemps qui disait que non, ce n'était pas une Nepo Baby, qu'elle avait réussi toute seule, sans sa famille. Non, mais s'il te plaît, assume au moins. Enfin, bref, ça m'a énervée. On est toujours dans la partie émotion colère, donc tout va bien. Non, par contre, effectivement, elle m'a un peu moins énervée que dans d'autres films. C'était complètement regardable. Comme toi, j'ai adoré le fait que ce soit très subtil, l'utilisation de la voix. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi le fait de revoir la scène de la boîte, là, de l'épreuve, cette fois-ci avec Fade. J'ai trouvé ça chouette, le petit clin d'œil, parce qu'en plus, j'avais vu le film la veille et j'avais totalement oublié cette scène. Et donc, quand je l'ai revue dans le film et que là, je l'ai revue dans le 2, je me suis dit « Ah, c'est vrai
!» Ouais, et ça, c'est un ajout que j'adore. Parce que du coup, ça sous-entend, par rapport au plan des Bene Gesserit que j'ai expliqué, ça sous-entend que Faye Drota pourrait être un Quetzalcoatl. Ouais. Mais alors que ce n'est pas du tout le cas dans les films, c'est son enfant qui pourrait l'être. C'est pour ça qu'en fait, ils essayent de mixer les deux familles, Harkonnen et Atreide. Normalement, Jessica aurait dû avoir une fille. Qu'ils auraient marié avec Faye Drota, et c'est l'enfant de Faye Drota et de la fille Atreide qui aurait dû être le Quetzalcoatl.
Ok, d'accord.
En gros, c'est ça. Et Faye et Paul, ils sont au même niveau de génération, mais du coup, ni l'un ni l'autre n'aurait dû être Quetzalcoatl. Donc, c'est ça qui perturbe le Bene Gesserit. Donc là, le fait qu'ils mettent vraiment à égalité Faye Drota en disant « On va le faire passer le test pour voir s'il est humain, que ce n'est pas un animal, et donc voir s'il peut devenir un Quetzalcoatl », j'ai trouvé que c'était un ajout et que c'était pas que c'était plutôt une bonne idée, parce que ça renforce le parallèle entre Paul et Fade.
Mais par contre, je rebondis sur ce que tu viens de dire là, avec mixé et génération, tout ça. J'étais un peu en colère aussi, c'était un peu ridicule la scène du « on se retrouve enfin, cousin ». J'étais là « non mais... » Non,
enfin, j'ai bien aimé.
Non, mais qu'ils soient cousins et tout, qu'on apprenne tout ça, le retournement de situation, ok, ouais, bon, d'accord. Mais alors le on se rencontre et on s'appelle cousin, je me suis dit, oh non, ça m'a fait sortir du truc, quoi. Et puis, après, faut avouer, j'ai trouvé la scène un peu ridicule de bagarre quand même. Je m'attendais à un truc plus spectaculaire. Et puis, ça faisait un peu... Je sais pas, ça s'est essoufflé. Enfin, je veux dire, je m'attendais vraiment à un vrai combat. Et au début, c'est bien parti. Et puis à la fin, tu sais, quand il retourne le couteau et bim, c'est déjà fini. Et t'es là. Ok, bon. Il l'avait beaucoup vanté sur Quotidien, cette scène, en mode on s'est beaucoup entraîné, on va faire vraiment une chorégraphie et tout. En fait, ça a duré 5 minutes. Et je me suis dit, ah, c'est ça le combat final? J'étais plus impressionnée, on va en reparler juste après, et ça fait peut-être une belle transition. J'étais plus impressionnée par la scène finale avec Rabban.
Ah.
Tu okay. vois, le combat Rabban-Fremen à la toute fin.
Enfin, c'est pas,
enfin,
oui,
pas, c'est pas un combat, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est...
Le moment où Gurney Halleck tue Rabban.
Oui, c'est ça.
Ah, ça, pour le coup, j'ai trouvé vachement expédié. Enfin, même si je ne m'attendais pas à plus. Mais...
Bon, je l'ai trouvé expédié, mais en même temps, comme disait Atib, si on avait dû faire... c'est exactement ce que je lui ai dit en sortant. Si on avait dû faire mort par mort 15 minutes pour que ça soit impressionnant, effectivement, on ne s'en serait pas sorti. Mais j'ai eu plus de tension sur cette scène-là que sur leur combat à deux, peut-être que j'en attendais trop, mais que j'ai trouvé du coup un peu bâclé et rapide.
Voilà. Ouais, non, moi j'ai pas été déçue, même si c'est pas le même effet de le lire et de le voir, ça fait pas le même effet. Donc il a fallu que j'oublie un peu
ce que t'avais lu.
La lecture pour apprécier. Mais j'ai bien aimé. Enfin, je trouve que, en plus, comme je savais effectivement que c'est eux qui. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de. Il n'y a pas de doubleur, c'est eux qui font vraiment toute la chorégraphie de combat et tout. Et du coup, elle est quand même cool, quoi. Enfin, donc, j'ai plutôt bien aimé. Puis, comme on va revenir sur Fade, mais je l'adore. Je le trouve excellent. Mm-hmm. Rien que pour ça. Et puis, pour le fait que je dis, bon, allez, c'est les derniers moments qu'on a avec Fade Rota, donc j'en profite. mais non, j'ai bien aimé.
Ouais, on va pouvoir parler de Fed, puisqu'on va continuer notre analyse émotionnelle. Fed, il nous a inspiré pas mal de peur et d'angoisse.
Ouais, du coup, quand j'y repense, genre, est-ce qu'il m'a vraiment fait peur?
Non, moi, j'ai fait peur. Enfin,
je vais pas le mettre dans le côté affection, faut pas exagérer.
Ouais. Non, mais bon, on va parler de plusieurs scènes, mais on peut déjà parler de la scène. C'est la scène en noir et blanc dans l'arène. Moi, clairement, j'étais scotchée. J'étais angoissée, vraiment, face à cette scène.
Elle est incroyable et c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Et parce qu'il y a ce travail sur les couleurs et la lumière et l'effet aussi, le design de Geddy Prime, le fait qu'il voulait vraiment que... On est un contraste très très fort avec Arrakis. En plus, tu parlais de la Golden Hour tout à l'heure, donc le côté très chaud, etc. Et là, il fallait vraiment que ce soit complètement différent. Et c'était la commande de Denis Villeneuve à son directeur de la photographie, donc Greg Fraser, qui a eu un Oscar pour la photographie sur le premier film, et qui a bossé aussi sur Rogue One, entre autres. Donc voilà, et d'autres films très bien. Et donc, ouais, et là, sa commande, c'était bon. Alors là, il ne va pas falloir tomber dans le piège, c'est que la scène de l'arène, ça reste quand même une arène de sable. Donc il va falloir qu'on fasse gaffe à que ça ressemble pas à Arrakis, quoi, parce que c'est un combat dans le sable au final. Ouais. Donc faut pas que ça ressemble à Arrakis. Donc débrouille-toi, Greg, trouve un moyen de faire que ça ressemble à autre chose. Et donc Greg Fraser, il a proposé une technique qu'il avait déjà utilisée du coup dans d'autres films, et notamment Rogue One. Mais alors du coup, je sais pas c'était quelle scène. Il a utilisé la photo infrarouge pour l'éclairage, enfin pour capter cette scène, qui donne en fait un effet qui absorbe les couleurs en fait, et qui donne un côté presque translucide aux peaux. Enfin, les peaux des humains deviennent très blanches, translucides. Ça donne pareil, les vêtements peuvent aussi un peu changer d'aspect. Et alors, il disait que c'était quand même assez risqué comme technique, parce que ça veut dire qui sont obligés de filmer avec cette technique particulière et ils peuvent pas revenir en arrière, tu vois. Si le résultat il marche pas, ils pourront pas retraiter l'image pour qu'elle redevienne normale. Donc c'était quand même assez risqué, et ça oblige aussi tous les départements à s'adapter. Et il disait que c'était notamment un gros casse-tête pour la costumière, qui a dû changer les tissus qu'elle avait prévu d'utiliser, parce que ça rendait pas du tout l'effet qu'il voulait avec cet éclairage infrarouge. Mais par contre, ça a dû donner des effets hyper cool avec quand il passe de l'ombre à la lumière, parce que du coup, quand on n'a pas le soleil de Geddy Prime, on a une lumière, enfin on a des couleurs naturelles, et c'est le soleil qui absorbe les couleurs en fait de Geddy Prime. Donc c'est le soleil qui a cet effet infrarouge. Et le Bene Gesserit, les robes des Bene Gesserit sont noires dans l'ombre, et elles deviennent blanches dès qu'elles arrivent à la lumière. Et alors, je sais pas si t'es évolué, mais du coup, symboliquement, c'est hyper cool, parce que ça veut dire que dans l'ombre, elles sont noires, elles sont discrètes, elles manipulent, et elles sont blanches, immaculées à la lumière du jour, comme si elles se présentent pur, quoi. Et donc, c'est cool. Et puis, bah, évidemment, l'effet sur Fade, qui, ça lui donne le fait qu'il soit chauve, qu'il ait les dents noires, ça accentue son, son côté étrange, quoi, d'avoir cette, cet aspect-là. Et puis, ça accentue ce côté noir et blanc très binaire des Harkonnen aussi. Donc, c'est très, très réussi. Là. Je trouve que c'est vraiment une de mes scènes préférées du film, c'est clair.
Ouais, non, je te rejoins tout à fait. C'est, la mise en scène est vraiment superbe. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est Austin Butler qui est incroyable. Enfin, moi, je l'ai trouvé terrifiant. Hein. Je sais que toi, tu es plus dans... dans l'admiration, mais...
En fait, je trouve qu'il est charismatique. Je ne pensais pas trouver Fade Rota charismatique.
Complètement.
Et, parce que c'est, enfin, dans les livres, c'est genre le golden boy, un peu beau gosse.
Ah oui, non, il n'est pas beau gosse du tout. Hein.
Ouais, mais il est pénible. Et là, non, il est...
Il est cruel, il est...
On peut pas dire cruel, qu'il soit... il est horrible, il file des... Il a ces espèces de... d'esclaves...
Ah ouais, c'est horrible, à qui il donne à manger des... Oh là là, mais c'est un psychopathe. Mais c'est ce qu'il a dit, Denis Villeneuve, qui voulait que ce soit un Mick Jagger. Je dis Mick, mais en fait, je crois que c'est qu'en français qu'on dit ça. Bref, en mode serial killer psychopathe, et qui voulait que ce soit un être machiavélique, extrêmement cruel, stratège, narcissique. Enfin bref, c'est exactement ça, quoi. Et j'espère sincèrement qu'il aura un Oscar du second rôle masculin, parce que je l'ai trouvé incroyable. Et il faut savoir qu'il s'est entraîné plusieurs mois avec un cascadeur et un spécialiste des arts martiaux pour que les scènes de combat soient vraiment puissantes. Il s'est entraîné entre autres au Kali, qui est un art martial philippin au bâton, et au combat au couteau. Et il disait qu'il cherchait vraiment à avoir son propre style de combat, qui soit différent de celui Paul, parce que du coup, il disait, moi, je me suis entraînée avec les Harkonnen, Paul avec les Atreides et les Fremen. Il faut vraiment qu'on voit la différence de combat. Et cette espèce de look avec ses dents noires, ses sans-cheveux et tout. Ouais, franchement, il est hyper bien réussi, il fait peur, la scène est dingue. C'était chouette. Enfin, je dis c'était chouette, mais c'était chouette d'avoir peur.
Mais... En fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette scène, c'est que ça montre que malgré qu'il soit terrifiant, psychotique, tout ce que tu veux, il a cette espèce de sens de l'honneur un peu tordu quand il remarque qu'un des trois prisonniers Atreides n'a pas été drogué. Et du coup, il est en vrai danger, entre guillemets, parce qu'il est face à un soldat Atreide qui sait se battre et qui ne va pas se laisser tuer. Et le fait qu'il refuse que les espèces de trucs bizarres, là, les espèces d'insectes interviennent autour, là, et qui dit non, reculez, et qu'il le tue, qu'à la fin, il dit « You fought well, Atreides », et qu'il leur redit ça, évidemment, à Paul à la fin, mais, enfin, tu vois, c'est ça aussi qui donne ce côté un peu charismatique, où malgré le côté horrible, psychopathe, etc., il a cette espèce de sens de l'honneur un peu bizarre, mais quand même présent, qui fait que voilà. Et puis on sent, tu vois, quand il se retrouve face à Paul, il est content, enfin il a cette espèce d'excitation de genre enfin un quelqu'un à ma taille, quoi. Enfin,
ouais, c'est ça, c'est exactement
ça, un personnage que tu es obligé d'être un petit peu enfin que tu aimes bien voir, quoi, même s'il est flippant, quoi.
Et on remonte un peu le temps, mais c'est vrai que lors de notre préparation, t'as mentionné une scène à laquelle j'ai pas pensé parce que c'est au tout début du film, donc fallait que j'avais plus le reste en tête, mais c'est la toute première scène avec les Harkonnen.
Ouais, j'ai trouvé hyper impressionnante, ça te met directement dans le dans le jus, où du coup, ouais, il y a les Fremen, enfin avec Paul et Jessica, ils sont dans le désert, et il y a les Harkonnen qui débarquent, et les Fremen disparaissent, et Jessica et Paul se planquent sous les rochers, et puis il y a les Harkonnen qui... Enfin, les Fremen attirent les Harkonnen en haut de la... du rocher et de la falaise, et après ils les descendent les uns après les autres, il y a une pluie de corps Harkonnen.
C'est horrible, ouais, c'est... Ah, t'es la tension, quoi, c'est...
Avec cette ambiance d'éclipse en plus, qui est incroyable. Enfin, oh là là, ouais, j'ai trouvé hyper marquante cette scène.
Ouais, puis le son. Je trouve qu'il y a un travail de son qui est assez incroyable. Et En fait, au cinéma, j'étais au dernier rang, parce que j'aime bien être souvent au dernier rang, mais j'étais au dernier rang complètement sur le côté, parce que la salle était complètement pleine. Hein. Mais vraiment, en plus, Thibaut qui me fait rire, il me dit « Ouais, c'est un samedi à 17h, les gens ils vont au cinéma le soir. » En plus,
oh, pareil, samedi 17h à Fontainebleau, j'ai jamais vu une salle aussi pleine.
Mais c'est ça. Il me dit « En plus, il pleut des cordes, les gens ils auront la flemme de sortir, ils vont rester chez eux sous ouais. leur couette et tout. » On arrive... genre 5 minutes avant le début de la séance, mais bondé, il y avait un mec qui était là pour montrer les places libres. Donc en fait, on était au dernier rang, donc ça, j'étais contente, mais complètement sur le côté. Et du coup, on avait l'enceinte juste au-dessus de la tête. Et bon, finalement, le film était tellement captivant que côté ou pas côté, j'ai pas vu la différence. Hein. Mais le fait d'avoir l'enceinte au-dessus de la tête, surtout dans cette scène qui arrive au début, quand les corps tombaient, je les entendais vraiment derrière moi. Oh, mais je sursautais à chaque fois, c'était horrible.
Ouais, non, je suis d'accord que ça fait effet. Moi, en plus, ouais, la deuxième fois, c'était donc au cinéma Fontainebleau, enfin à Avon, où c'est le son et c'est du Dolby Atmos. Et du coup, c'est un son vraiment englobant et ça faisait son effet, c'est vrai. C'est vraiment pas mal. Et du coup, pour finir sur les scènes, moi, qui m'ont fait un peu, pas flipper, mais un petit peu quand même, c'est la scène où Rabban... pète un câble et va sur le essaye d'aller attaquer les Fremen et de trouver le fameux Moadib au milieu du désert et où ils descendent sur le terrain et ils ont bombardé donc ils sont dans la fumée etc et on voit Moadib apparaître avec les Fremen et tout qui les tue pareil qui surgissent de nulle part dans la fumée et même si c'est très satisfaisant de voir Rabban se faire pipi dessus et flipper et détaler comme un rat, n'est-ce pas? J'ai trouvé que c'était... Enfin là, Moadib, il devient vraiment... Là, tu comprends à quel point il peut être... Paul, il peut être... il peut avoir une aura flippante, en fait.
Ouais.
Et puis ça préfigure forcément la guerre sacrée, quoi, qui va arriver et de l'effet que ça va avoir sur les gens d'avoir cette horde de Fremen qui va venir tout décimer et ça fait un peu flipper.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ça faisait un peu flipper aussi, ouais. On passe à l'avant-dernière émotion.
Des émotions un peu qui sont pas des émotions très positives dans ce qui nous a mis mal à l'aise, plus ou moins, mais plus que moins.
Ah ouais, moi j'étais totalement mal à l'aise et un peu en colère aussi, donc... voilà, j'aurais pu mettre les deux. C'est concernant la sœur de Paul... Et ces images extrêmement malaisantes de fœtus qui parlent. Bah, je peux commencer par expliquer pourquoi j'ai trouvé ça assez malaisant et que ça m'a mis en colère. Et puis après, bah, t'expliqueras la différence avec le livre et un petit peu qui est-elle, cette sœur de Paul. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément hyper clair dans le film. Moi, en fait, ce qui m'a énervée, c'est le message involontaire que ça fait passer derrière. On est dans une période où y a beaucoup de personnes qui remettent en cause le droit à l'avortement, notamment avec son inscription dans la Constitution, bah, ça a relancé le débat. Et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre et qui le revendiquent de plus en plus. Et...
Aux États-Unis, enfin, ça a été.
Ouais, mais en France aussi. Enfin, aux États-Unis, beaucoup, ouais, ça c'est clair. Mais en France aussi, encore actuellement, là, quand je vois, par exemple, le Hugo Décrypte que je suis sur Insta, quand il a fait le post en disant voilà, c'est inscrit dans la Constitution, il y a des tas de personnes dans les commentaires qui disent ça y est, vous avez validé le droit du meurtre, vous êtes content. Enfin, vraiment, c'est très violent. Et en fait, cet argument, le fœtus est un être vivant, il est humain, il a des pensées, c'est une personne à part entière, donc l'avortement, c'est un meurtre. On le retrouve encore beaucoup. Et sachant ça, moi, j'ai trouvé que montrer des images d'un fœtus de quelques semaines qui parle, qui pense, qui réfléchit, j'ai trouvé ça, mais hyper maladroit et vraiment pas très intelligent. Et je pense que c'est pas volontaire de la part de Villeneuve, il a dû pas du tout penser à ça. Peut-être que si ça avait été une femme à la commande, peut-être qu'elle lui aurait pensé, encore plus si c'est une femme qui a dû subir un avortement. Mais je trouve que le message qu'il envoie, surtout aux femmes qui ont pu vivre ça et qui, du coup, culpabilisent déjà peut-être... Enfin, c'est pas un acte qu'on fait, c'est pas un acte anodin. Je trouve que, voilà, c'est très violent. Et pour moi, il aurait totalement pu se passer de ces images. Et j'y ai encore plus pensé quand on voit donc Anya Taylor-Joy qui joue justement la version adulte de ce bébé, donc de la sœur de Paul. On la voit 30 secondes voilà, un peu en flashback du futur, je me dis, bah, ils auraient pu, voilà, faire en sorte que, à chaque fois, au lieu de mettre le fœtus, on la met elle. Oui, ça reste l'idée que c'est un fœtus de quelques semaines qui parle, mais on n'a pas l'image qui va avec, ça appuie pas dessus. On aurait un peu son âme, entre guillemets, qui parlerait, ou elle du futur. Enfin, le temps, il est hyper abstrait dans ce film, donc ça n'aurait pas posé de problème. Et d'ailleurs, ça aurait été plus cohérent, parce que je croyais vraiment qu'elle apparaissait comme un cheveu sur la soupe. J'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était elle. Et donc, voilà.
Si je ne savais pas avant, même moi, j'aurais eu du mal.
Bah ouais, non, mais sûrement, je me suis dit...
J'avais été spoilée avant, je savais qu'elle jouait... qu'elle jouait Alia, donc, parce qu'on n'a pas son nom, mais c'est Alia, du coup.
D'accord.
Et je dis genre... Bon, du coup, je ne savais pas comment ils allaient faire pour avoir une jouer Alia.
Tu vois, pour moi, ils auraient dû, du coup, la laisser à chaque fois. Enfin, bon, c'est vrai, ça aurait été peut-être un peu dur au début de comprendre que c'était elle, voilà. Mais j'ai trouvé, ouais, ça très maladroit et ça m'a fortement déplu et mis mal à l'aise.
Bah, je peux que valider ce que tu ressens. Parce que, bah, même si, du coup, moi, je n'ai pas eu cette impression-là parce que j'avais le malaise... de ce qui est de la manière, enfin je savais, j'étais déjà préparée au malaise en fait avec, par rapport à ce concept même dans le livre, mais j'ai pas spécialement aimé non plus la manière dont c'était, enfin j'ai été très curieuse de savoir comment ça allait être mis en scène, et du coup j'ai pas spécialement aimé le résultat, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Mais c'est lié quand même, c'est qu'en fait, je trouve qu'ils ont amoindri la réalisation pour le public. Enfin, on est censé être mal à l'aise face à ça, mais ils ont amoindri le fait que même Jessica est très profondément perturbée et effrayée par ce qui se passe, en fait. Parce qu'il se passe dans son ventre.
Ouais.
et que du coup, c'est pas normal et... Enfin, je trouve qu'en fait, c'est vraiment passé, genre, en gros, elle se réveille et du coup, Paul demande bah, comment va sa sœur et dit bah, elle a eu peur, mais maintenant, ça va. Et genre, bah non, ça va pas. Et même le fœtus, enfin, même Alia, du coup, parce que c'est le nom de cette sœur, elle est... Enfin, c'est pas... Il n'y a rien de normal, il n'y a rien de banal à ce qui vient de se passer. C'est, je crois, je ne me souviens plus, mais dans l'univers, c'est la première fois que ça se passe. Et du coup, d'ailleurs, c'est... Alors, le nom est donné, mais je ne crois pas que c'est dans le même contexte. Mais pour les Bene Gesserit, Alia, elle est appelée Abomination. En fait, c'est vraiment un espèce de tabou, ce qui s'est passé. Le fait qu'une Bene Gesserit boive le poison en étant enceinte, c'est quelque chose qui doit pas se passer. Parce qu'en fait, et c'est là où je reviens au fameux potentiel Kwisatz Haderach, c'est que ça a fait que le fœtus, enfin que le bébé à naître, s'est éveillé en même temps que sa mère à la mémoire génétique. Sauf qu'elle, elle a eu tout en fait, tout d'un coup. Elle a eu aussi, comme un Kwisatz Haderach, toute la mémoire génétique. Et elle est aussi presciente, elle voit aussi l'avenir, ce qui n'est pas le cas de Jessica. Elle a les mêmes pouvoirs que Paul, en fait.
D'accord.
C'est quelque chose que les Bene Gesserit considèrent comme une abomination, parce que ça ne doit pas arriver. C'est une femme, c'est pas possible, normalement, que ça puisse arriver. Et le seul moyen que ça arrive, c'est ça. Mais du coup, il y a vraiment des longs monologues de Jessica dans les livres où elle est très, très mal à l'aise avec ce qui se passe. Et en fait, la grosse, grosse différence aussi avec dans le film, c'est la temporalité. Et ça influence d'ailleurs aussi Shani, le rapport qu'on a avec Shani, c'est que c'est beaucoup plus court, là, le temps qu'on passe avec les Fremen, là, c'est quelques mois, du coup, parce que Jessica est enceinte au début, elle est toujours enceinte à la fin du film. Dans les livres, il se passe plusieurs années. Il se passe 2 ans au moins. Enfin, en tout cas, Alia a le temps de naître et d'être un bébé. Elle a 2 ans quoi, à la fin du livre. Mais elle naît bébé qui parle.
Oh, ça doit être flippant, ça.
Et du coup, elle interagit avec tout le monde. Elle est hyper complètement... Elle a toute la mémoire de ses ancêtres qui la manipulent, du coup. Parce qu'elle a pas de conscience d'elle-même, ouais. C'est un bébé. Et du coup, c'est affreux. C'est hyper malaisant. Et autre grosse différence, c'est elle, bébé Alia de 2 ans, qui tue le baron Harkonnen à la fin.
Oh, j'aurais voulu voir cette scène. Un bébé... un bébé qui parle, ensuite à 2 ans qui tue le baron. Ok.
Bah elle arrive avec sa petite ses petits trucs empoisonnés, le gomme jabar qu'elle utilisait la fin. Elle arrive, paf paf paf, coucou chez le grand-père, pof, elle le tue, voilà.
Au moins, il s'y attendait peut-être pas, hein, donc ça peut faire sens. Tu vois un bébé de 2 ans arriver vers toi, tu vas pas te dire « Oh, elle a une arme, elle va me tuer ».
Non, mais tout le monde est terrifié face à ce bébé. Hein. Je veux dire, les Fremen sont absolument terrifiés.
Mais tu sais que j'ai acheté le livre, j'ai trop envie de le lire là maintenant.
Ah bah ouais, non mais c'est...
Ah mais... C'est fou.
Non mais du coup, c'est compliqué. Enfin, le personnage d'Alia, il pouvait pas s'en passer parce qu'elle est trop importante, notamment pour le Messie de Dune. Mm. Mais... Et puis bah c'est quand même, enfin c'est le double de Paul. Enfin,
non mais je suis d'accord, moi je dis pas l'enlever, mais je dis vraiment, tu vois, Anya Taylor-Joy partout du coup, tu vois, à chaque fois.
Ouais.
Et je trouve que ça aurait fait plus sens, ça aurait été plus cohérent, on aurait compris qui c'était elle dès le départ plutôt qu'elle arrive une fois.
Bah, je suis d'accord avec cette idée, et pour moi c'est aussi un gros problème. Enfin pour moi c'est une raison pour laquelle j'ai pas aimé Jessica, c'est qu'en fait. À partir du moment où elle s'éveille, là où du coup elle a son fœtus qui lui parle. Mmh. Alors d'un côté, ça donne un côté un peu bizarre. On se dit c'est plus qu'une seule et même personne qui parle. Mais je sais pas, j'ai pas aimé cette adaptation. Et notamment pour le personnage de Jessica qui devient beaucoup plus inhumaine en fait, je trouve. Mais j'ai hâte de voir Anya Taylor-Joy en Alia dans le deuxième film.
Parce que du coup, elle sera plus âgée, c'est bon.
Bah, s'ils suivent, bah, il y a forcément
un petit ellipse de temps.
Mmh. Elle peut jouer une adolescente, hein, je pense, même si elle est plus âgée, elle peut jouer quelqu'un.
Oui, ça va.
À l'âge d'Alia, quoi.
On va passer à la dernière émotion, qui risque de nous prendre un petit peu de temps. On va essayer quand même de ne pas faire un épisode de 3 heures. On va parler du personnage de Paul. Et vraiment, ça, on a ressenti face à lui un mélange entre confusion et appréhension. Pour moi qui ne connaissais pas du tout l'histoire, enfin j'ai pas lu le livre, je l'ai acheté là, je vais le lire mais je l'avais pas lu, ni vu le film de David Lynch, j'étais un peu confuse à la fin, j'ai pas trop compris si Paul c'était plutôt un messie, l'antéchrist, l'élu, pas l'élu, voilà j'ai vraiment eu un grand moment de confusion. Parce que on a parlé de Stilgar, Javier Bardem qui est excellent.
Il se C'est
ça. J'adore les mèmes sur lui, il me tue de rire. Mais qui est là, c'est Lisan El Gaïb. Il mange un stylo. C'est Lisan El Gaïb. Il danse tout nu. C'est Lisan El Gaïb. Enfin, franchement, ça me fait trop rire. Enfin, bref. Et puis à côté, Shani qui est là en mode j'y crois pas du tout. Et puis moi, en fait, j'étais vraiment. C'est trop drôle, mais. Enfin, c'est trop drôle. Ça a fait rire Tib. Mais moi, j'étais vraiment. Mais du coup, c'est Lisan El Gaïb ou c'est pas Lisan El Gaïb? Est-ce que il existe le Messie ou il n'existe pas le Messie? Et puis, j'en parle avec Tib et il me fait, mais il était mort de rire. Il me fait, mais en fait, c'est comme dans n'importe quelle religion. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Enfin voilà, il y en a qui pensent qu'il est déjà arrivé, il y en a qui pensent qu'il va arriver. Enfin, et moi, j'étais là, mais moi, dans un film, je veux des réponses claires. Je veux savoir. Et voilà. Du coup, j'étais un peu confuse sur tout ça, mais pas en mal, hein, franchement. Quand je dis je veux des réponses claires, c'est parce que ça m'énerve de pas savoir voilà ce qu'il en est réellement, d'avoir, mais j'ai trouvé ça bien
amené, quoi. Un état un peu genre pas très à l'aise,
ouais, je suis frustrée, je suis, mais dites-moi, je dois penser blanc ou je dois penser noir? Je comprends pas.
Le problème de Dune, c'est qu'il n'y a pas de...
Oui.
C'est pas censé penser blanc ou noir à la fin de Dune, quoi.
Mais d'ailleurs, moi cette partie-là va être un peu plus... on va peut-être se répéter, va être un peu plus improvisée. Mais moi, ce que j'ai pas compris non plus, j'étais un peu confuse là-dessus, c'est... J'étais là, mais à la fin du film, j'étais persuadée que Paul, il était toujours hyper gentil et qu'il faisait ça pour aider les autres, qu'il allait pas faire de génocide et tout. J'avais vraiment pas pigé ça du tout, du tout. Et c'est à la fin du film que je me suis dit, mais attends... En fait, il part en guerre, là, il va tuer plein de gens. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment juste pour la bonne cause? Est-ce qu'il a toujours le cœur pur, entre guillemets? Ou est-ce qu'il a vrillé en buvant l'eau de la vie? Ou est-ce que c'est obligatoire qu'il a tué des gens? Ou est-ce qu'il a vu le futur et il sait que c'est la seule solution? Et en fait, je comprenais rien. Et pour moi, vraiment, quand je suis sortie du film au départ, c'était « Oh, bah, il est gentil, il est mignon, il va aller se battre pour aider les Fremen. » Et c'est quand j'ai vu tous les mêmes le comparant à Anakin, je me suis je suis peut-être passée à côté de quelque chose.
Oui et non, parce que c'est compliqué, Paul. Non, mais sur... Bon, déjà, sur le juste le Lisan al-Gaïb. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé que le film était relativement clair là-dessus et il le répète quand même pas mal de fois. Et c'est déjà le cas dans le premier film. Le concept de Lisan al-Gaïb, c'est une création des Bene Gesserit avec la Missionaria Protectiva dont je parlais tout à l'heure. Genre, toute leur religion, la religion mmh. notamment des Fremen du Sud, là, c'est une pure création des Bene Gesserit pour préparer le soutien des Fremen au Kwisatz Haderach. C'est vraiment...
Ouais, ça, je m'en suis re-rappelé après, et quand j'ai discuté avec Tib, et je me rappelle que dans le 1, Jessica le dit, les Fremen sont venus et implanté cette idée.
Allez, ouais, les sœurs sont venues, mais du coup, c'est...
Oui, les après, oui.
Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas le Lisan al-Gaïb, c'est que c'est le Kwisatz Haderach, enfin c'est la même chose. Et du coup, à partir du moment où il croit en Paul et que Paul a effectivement ses pouvoirs de Kwisatz Haderach, bah c'est le Lisan al-Gaïb. Il n'y a pas de.
D'accord.
C'est... À partir du moment en plus où il accepte ce rôle-là, il l'est encore à 200%, quoi. Mm. L'auteur Frank Herbert, il est. Je ne sais pas quelles sont exactement ses croyances, mais il est hyper... un des gros messages de ses livres, c'est de se méfier du fanatisme et de se méfier de la manipulation. Enfin, pas forcément de se méfier des religions en tant que telles, mais de se méfier de la manière dont elles sont utilisées à des fins politiques, quoi.
Ouais, bah ça, on le ressent dans le film, hein, totalement.
Ouais. Ils ont encore plus clarifié dans le film, effectivement, avec le fait que tous les Fremen ne sont pas d'accord, etc. Donc c'était plutôt intéressant. Par contre, est-ce que Paul est devenu un méchant à la fin? Ça, c'est compliqué. Et là, moi, non, j'ai lu Le Messie de Dune. En fait, je pensais, moi, pareil, j'avais déjà entendu parler, donc je ne m'étais pas spoilé, mais je savais, ce que j'avais entendu, c'était que Frank Herbert, il était un peu frustré et énervé de la réception de son premier film, de son premier livre, parce que les gens, justement, ont eu cette confusion en finissant le livre, en disant, Paul, c'est le héros, Paul, il est trop fort, etc. C'est le héros de l'histoire, quoi. Et lui, il était genre, mais vous n'avez pas compris mon message. Bon, bah, du coup, je vais écrire Le Messie de Dune pour être un peu plus clair. Et dans Le Messie de Dune, on voit vraiment les effets, enfin, je spoil qu'à moitié, mais on voit vraiment les effets qu'a le choix de Paul, enfin, le choix. On ne sait pas si c'est vraiment un choix, du coup. Mais ce qu'il va faire,
qu'il va faire vraiment, les actions de Paul.
C'est ça. Et c'est tout l'enjeu à la fois dans le livre et dans le deuxième livre aussi de Paul, qui c'est vraiment un personnage vraiment tragique, parce que il sait qu'il sait pas, enfin qu'il fait des choses horribles et qu'il les fait par rapport à ses visions, etc. Mais d'un autre côté, il suit une voie qui, pour lui, c'est la seule voie possible.
Oui.
Et c'est la meilleure voie. Enfin, et après, on ne sait pas, est-ce que c'est la meilleure voie possible? Est-ce que si Davy, ça va être encore pire? Ça, c'est pas très très clair. Mais c'est quand même un peu implicite. Donc, est-ce que c'est pas un héros? C'est clair. Mais est-ce que c'est vraiment un méchant?
Ouais.
Je suis encore en train de digérer Le Messie de Dune. Je sais pas.
Tu l'as fini là? Ça y est.
Ouais, je l'ai fini. Ouais. Et c'est horrible. c'est hyper triste. C'est vraiment très, très triste. Mais ça ne m'a pas fait détester Paul. Je pensais que ça allait me faire détester Paul, mais pas vraiment, quoi. Un peu, mais pas... c'est tragique, quoi, comme histoire. Mais oui, par contre, quand on voit l'étendue de la catastrophe qu'il a provoquée, oui, ouais. Non, c'est... Mais bon, quels étaient les autres choix, on ne sait pas.
Ok. Ouais, c'est... En fait... Je dis que j'ai été frustrée et confuse, mais je trouve que ça reste quand même intéressant. J'aime bien... Enfin, je suis frustrée, mais j'aime bien même ce genre de film qui te dit pas quoi penser exactement au final, ni qui te donne des solutions toutes faites et qui te font réfléchir un petit peu à tout ça. Et dans une moindre mesure, mais vraiment très très... C'est très différent, hein, mais Inception, avec cette fin où tu sais pas trop non plus, je trouve que, tu vois, ça me donne un peu la même impression. Ou à la fin, tu réfléchis, puis un jour tu penses blanc, un jour tu penses noir, et... Moi, j'ai pas lu la suite, donc je sais pas exactement ce qui va se passer et tout. Enfin, j'ai lu vaguement des petits trucs. Enfin, je voulais juste savoir Paul et Shani, hein, ce qui se passait, mais... Et... bah oui, je vois cette fin, je me dis... Quoi? mais du coup, ouais, je trouve que c'est... malgré les émotions un peu contraires que ça m'a fait... Enfin, ça m'a fait ressentir des émotions opposées, quoi. J'ai été frustrée, mais contente quand même. Mais satisfaite, ouais.
Et moi, j'étais vraiment, pour le coup... parce qu'un des gros éléments, on va on va dire, plus gris, voire noir de Paul, c'est le fait qu'il accepte d'endosser ce rôle et de manipuler les Fremen et de manipuler toute l'humanité, même pour sa voix, entre guillemets. Et là, j'ai trouvé que c'était une des scènes qui m'avait le plus marqué dans le livre et je l'ai trouvée excellente. Timothée Chalamet m'a vraiment impressionnée. C'est du coup quand il revient dans l'espèce de grand conseil là et qu'il prend la parole alors que c'est normalement les chefs, les naïbs qui doivent parler et oui, du coup il endosse vraiment ce rôle de Lysan Al-Gaïb et où il interpelle tous les Fremen. Et il montre qu'il voit tout, qui rentre dans leur tête presque. C'était une scène qui déjà m'avait vraiment marquée, parce que c'est aussi le moment où Stilgar, particulièrement dans les livres, devient un fanatique, vraiment. Il l'est moins dans les livres avant, mais il est déjà, c'est moins grossier entre guillemets que dans le film, même si j'ai adoré dans le film, hein, j'ai trouvé que ça faisait du bien de rire un petit peu de temps en temps dans ce film, mais là vraiment c'était vraiment la scène où il devient vraiment le Lysan Al-Gaïb et où il devient Paul Mouadib Atreides aussi, où il reprend son héritage Atreides et où il s'affirme comme le chef, où il dit je suis le duc d'Arrakis, alors que jusque là les Fremen de base, ils sont égalitaires. Il y a des naïbs, il y a des chefs, mais c'est pas.
Ouais, il n'y a pas de duc
chez les Fremen, quoi. Et donc là, le fait qu'ils disent voilà, je suis le duc d'Arrakis et je suis Paul Mouadib Atreides, c'était. Je trouvais que Timothée Chalamet était. Ça m'a donné les frissons. Il fait peur à ce moment-là. Et puis, en plus, le voir dans les yeux de Shani, là, du coup, qui, elle. Pareil, elle le voit changer et juste avant, elle lui dit quelques scènes avant, elle lui dit je t'aimerai tant que tu resteras toi-même, quoi. Et là, elle voit que c'est plus lui, quoi. Enfin, c'est quelqu'un d'autre. Ça serre un peu la gorge, quoi.
Ouais.
Mais bon, il est quand même hyper classe hein, quand il arrive avec sa, sa cape au vent, avec le gros vert derrière qui traverse la foule, des gens. Oh, c'est dur de pas y voir un messie, quoi.
Non, c'est vrai. Mais j'ai lu pas mal de critiques qui disaient qu'il était pas hyper convaincant. Voilà, il est tout frêle, tout petit, tout. Moi, je l'ai trouvé hyper convaincant malgré, entre guillemets, son physique. Effectivement, il est pas baraqué, etc. Mais au contraire, moi, je l'ai trouvé chouette. Enfin, je suis pas forcément une immense fan de Timothée Chalamet à suivre tout ce qu'il fait, etc. J'ai même pas vu mon cas. Mais je trouve que c'est un très bon acteur et que là, clairement, il a fait le taf, quoi.
Ouais, clairement. Et puis en plus, ce côté-là, le fait qu'on le voyait vraiment très, très jeune, très naïf, très frêle dans le premier film même, et on voit vraiment l'évolution, et on le voit vraiment se transformer sa voix et sa présence jusqu'à la fin. Enfin, moi, je trouve quand il débarque dans la salle du trône, où il fonce directement et où il tue le baron, j'ai trouvé ça hyper hyper fort, quoi, comme moment. Enfin, rien que dans sa démarche, dans sa présence,
je suis d'accord,
il en impose, quoi. Et donc j'ai aussi d'autant plus hâte de voir Timothée Chalamet dans la version du Messie de Dune. Ça va être un sacré challenge pour lui parce que pour le coup ça va être encore plus loin que tout ce qu'il a fait, mais ça va être intéressant, je pense.
Ouais, mais bon, je pense que là ça va pas être tout de suite. Je ne vais pas te mettre.
Mais c'est bien qu'il ait. Passé quelques années, parce que même pour Timothée Chalamet. Bon, il ne va pas vieillir en 2 ans. Enfin, il aura toujours la même tête.
Non, mais il va prendre en maturité un peu. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit en sortant avec Kylie Jenner qu'il va prendre en maturité. Désolée, la blague était facile. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit.
Ne juge pas.
On ne juge pas, on ne la connaît pas. Elle a réussi à faire une gamme de maquillage qui explose, qui est très bonne d'ailleurs. Je crois que j'ai des rouges à lèvres. Non, j'ai pas de rouge. Non, c'est pas d'elle. Non, j'ai rien dit. J'ai pas son maquillage. J'ai du maquillage d'un peu tout le monde, mais pas d'elle. Non, elle est forte dans ce qu'elle fait, mais. Non, je disais ça parce que j'ai. Il y a pas longtemps, il y avait quand même ces espèces de guéguerre entre elle. Hailey Bieber, Selena Gomez, je crois. Enfin bref, il y a des... Ou Taylor Swift, je sais plus. Enfin, J'ai vu passer des trucs, je suis passée à côté, mais où je me suis dit, oh là là, elles n'ont pas que mieux à faire. Et donc, du coup, je me suis dit, mais Timothée Chalamet, que fais-tu que fais-tu au milieu de tout ça? Voilà, c'était tout. Non, mais moi, écoute, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. J'ai parlé de toutes les émotions que j'ai pu ressentir devant ce film, qui étaient nombreuses. Et c'est pour ça que c'était sympa de faire cet épisode de cette manière-là.
Ouais, moi aussi, je trouve que c'était une bonne manière de faire une analyse un peu différente. Je pense qu'on a parlé... Est-ce qu'on a parlé de tous les personnages? Peut-être pas, on a dû passer un peu... très vite sur certains, mais c'est vrai qu'on a peu parlé du baron, même si c'est vrai qu'on ne voit pas tant que ça, mais bon, il est toujours... Enfin, je trouve que Stellan Skarsgård a fait un... On aurait pu le mettre dans le côté un peu inquiétant. Je trouve qu'il est toujours... Ouais, le personnage de Rabanne, on en a parlé, mais j'ai trouvé que Dave Bautista, il est... Bah, on le voit vraiment la différence entre lui et son frère, Faye Drota, du coup,
ouais,
qui est bien meilleur, quoi. Mais c'est... que Rabanne, c'est juste une brute un peu débile, quoi. Belle réussite, ce film, et ça donne envie de... Enfin, l'émotion que j'ai déjà mentionnée, mais que, sur laquelle je vais finir, c'est l'anticipation, quoi. J'ai hâte de la suite, mais...
Moi aussi. Je pense pas lire Le Messie, quand même, de Dune. Je pense que je vais lire le livre, parce que j'ai bien envie de voir, effectivement, les différences et tout, puis me replonger dedans un peu. Mais je pense que j'attendrai le film.
Je pense que de toute façon, ça sera forcément très différent parce que j'espère que tu éviteras certains. Mais peut-être, bon, tu t'es déjà fait spoiler, mais j'espère que tu éviteras certains des spoilers qui sont. Où je suis genre, ah, j'ai trop hâte de voir les réactions des gens quand ils vont voir ça, quoi. Et il y aura une autre histoire d'amour en plus dans le Messie de Dune.
Ah, bah, c'est cool. C'est cool.
Bah, c'est tout pour nous pour cet épisode. Bah, n'hésitez pas à nous partager vos avis sur Dune. On sait qu'il y a, ça peut continuer à faire quelques débats. On est toujours là sur le Discord pour participer au débat et continuer la discussion. Et on a déjà une petite idée de quel sera notre épisode la prochaine fois. On revient sur un épisode thématique, n'est-ce pas?
Et toujours un petit peu dans les sentiments, la thérapie de Popcorn Thérapie. On en profite pour rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, @poptpodcast, un petit peu partout. Et surtout, chose importante, changement d'hébergeur, on a rejoint le Label et la Bête. Bah, nouveauté, vous pouvez rejoindre le Patreon des La Bête, voilà, avec des petites exclus, des épisodes en plus, des sondages, etc. Alors, de notre côté, au niveau contribution, on n'a pas encore réfléchi à ce qu'on allait faire, mais on fera quelque chose, on vous promet. Peut-être les épisodes en anticipation, si Marjo, la chef du montage, arrive à finir avant, ou peut-être... des mini-épisodes exclus sur ce qu'on aura vu sur les plateformes, je ne sais pas.
Oui, même si, effectivement, en rejoignant du coup le Label et la Bête, on va bénéficier du coup du Patreon qui... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de donner quelques euros par mois pour soutenir l'association et les activités de l'association. Ça va nous permettre de profiter de l'hébergeur qui n'est pas gratuit, dont profite et la bête. Ça va nous permettre aussi de potentiellement, si on a des besoins à certains moments, pour faire des choses cool, pour peut-être se déplacer à certains endroits à l'occasion pour le podcast ou des besoins d'équipement, de profiter des sous que Kay et la bête grâce au Patreon. Mais vous en faites pas, nos podcasts restent totalement gratuits.
Bien sûr.
Et vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer pour continuer à nous écouter. Et effectivement, on va réfléchir quand même à des petites façons de remercier ceux qui participeront au financement de l'association.
T'as beaucoup mieux résumé ça que moi. Faut que je m'entraîne. Bon, écoutez, à bientôt.
À bientôt. On n'a pas. Il faudrait qu'on trouve un moyen de finir nos épisodes parce que chaque fois
c'est. Alors à la prochaine. Salut.
Missan Al-Gaïd.
on n'a pas réfléchi à de quoi parler au départ.
Comme d'hab.
Bah oui, écoute, un jour on va enlever ce truc, parce qu'on va se dire c'est bon, on en a marre.
Mais non, mais c'est drôle de trouver vraiment sur le
moment. Sur le tas. Comme le tas de dunes, le tas de sable. Non, c'était pas drôle du tout. C'était nul. C'était hyper nul. Bref. Non, mais
je vais le garder pour la fin, pour le mettre en blooper.
Ça marche.